Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la Sainte Sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Thank you.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bien, chers amis auditeurs, bonsoir, bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce jeudi 25 mai 2023. Dans quelques instants, je vais vous présenter le journal d'information et un commentaire politique. Iran-Indonésie, Téhéran défie les sanctions américaines. On vous propose ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute, restez avec nous. L'Iran dévoile un nouveau missile balistique à longue portée, Khaybar. Les États-Unis utilisent la base militaire d'Al-Tan pour planifier des actes de sabotage contre la Russie. Et l'ONU a besoin de 7 milliards de dollars pour éviter une catastrophe dans la corne de l'Afrique. C'était les principaux titres. En voici le journal. Simultanément à l'anniversaire de la reprise de la ville de Khorramshahr aux troupes de l'armée de l'ancien dictateur irakien Saddam Hussein, le 24 mai 1982, le missile stratégique à longue portée Khaybar, Khorramshahr 4, a été dévoilé en présence du ministre iranien de la Défense, Mohammad Reza Gharayi Ashtiali. Le missile Khaybar est considéré comme l'un des missiles les plus avancés conçus par les spécialistes de l'Organisation aérospatiale du ministère de la Défense. Il a une portée de 2000 km et est équipé d'une ogive hautement explosive pesant 1500 kg. Et pour profiter des capacités tactiques, ce missile est équipé de l'un des moteurs à carburant liquide les plus avancés et conçu de manière à ce que le moteur soit placé dans le réservoir de carburant, ce qui a conduit à réduire la longueur du missile à environ 13 mètres. L'ogive de ce missile, qui a une longueur d'environ 4 mètres, est l'une des ogives les plus grandes et les plus efficaces, étant en mesure de transporter plus d'une tonne de munitions. La vitesse élevée de l'ogive frappant la cible rend les systèmes de défense ennemis incapables de détecter, d'intercepter et d'agir pour détruire l'ogive. La différence entre ce missile et les générations précédentes est la précision de ciblage au stade intermédiaire, survol de l'atmosphère. L'autre avantage de ce missile est son guidage intermédiaire, de sorte que les systèmes de guidage du missile sont désactivés une fois qu'il entre dans l'atmosphère et il est impossible pour l'ennemi de lancer une guerre électronique à son encontre. La classe de missile Khorramshahr est connue pour son système de guidage et de contrôle unique pendant la phase de mi-vol. Cette fonctionnalité permet au missile de contrôler et d'ajuster sa trajectoire en dehors de l'atmosphère terrestre et de désactiver son système de guidage lors de son entrée dans l'atmosphère, lui conférant une immunité complète contre les attaques de guerre électroniques. Le missile Khorramshahr a été dévoilé pour la première fois le 22 septembre 2017 lors d'un défilé des forces armées et il a été annoncé que ce missile avait une ogive pesant 1800 kg et il peut emporter plusieurs ogives en même temps, ce qui double l'efficacité du missile. La capacité de contourner les systèmes de défense aérienne ennemis et de les diriger du moment du lancement au point de destruction de la cible a fait du missile Khorramshahr un missile stratégique. Le missile Khorramshahr a un diamètre plus grand et une longueur plus courte que les autres missiles iraniens de portée similaire. Dans un message à l'occasion de la journée de la victoire et de la libération, commémorant la victoire sur le régime sioniste en 2000, le président du Parlement libanais, Nabih Berri, a déclaré que l'unité était la clé de la réussite des Libanais. Dans son message, le président du Parlement libanais a ajouté « Le Liban a eu le courage, et l'a encore aujourd'hui, de faire échouer les projets du régime sioniste et de briser la volonté de l'ennemi de dominer la région. » Nabih Berri a affirmé que les enfants du Liban ont fait preuve d'un courage national de résister à toutes les pressions intérieures et extérieures. En cette journée de la victoire et de la libération, nous adressons nos salutations à tous les martyrs, en particulier au père de la résistance libanaise, l'imam Moussa Sadr. La résistance libanaise a déjoué tous les projets de l'ennemi israélien en 2000, en libérant les territoires occupés du sud du Liban, a dit Nabih Berri. Tout acte visant à nier les acquis nationaux de la résistance serait un acte de trahison, a-t-il déclaré, estimant que la résistance avait présenté un modèle de premier plan en ce qui concerne la mise en œuvre des actions nationales. Je remercie les pays amis et frères qui ont soutenu le Liban pour résister à l'ennemi et libérer ses terres, en particulier l'Iran, la Syrie et l'Algérie, encore dit Nabih Berri. Alors que l'envoi d'une vaste gamme d'équipements militaires par des pays occidentaux à Kiev pour la guerre contre la Russie ainsi que l'infiltration de groupes subversifs ukrainiens en Russie se poursuivent, le directeur du service de renseignement extérieur russe, SVR, a fait état de l'entraînement des terroristes par les États-Unis pour mener des opérations contre Moscou. Les États-Unis utilisent leur base militaire d'Al-Tanf en Syrie, à la frontière avec l'Irak et la Jordanie, pour former des terroristes Daesh visant à mener des actes de sabotage non seulement sur le territoire syrien, mais aussi dans les régions russes, a déclaré le directeur du service russe de renseignement extérieur, Sergei Naryshkin, lors d'une réunion internationale de hauts représentants de la sécurité le mercredi 24 mai. Naryshkin a également rappelé qu'en 2011, ce sont les États-Unis et les pays membres de l'OTAN qui ont soutenu des groupes terroristes et séparatistes en Syrie. Selon le communiqué publié par le service de renseignement étranger de Russie, les États-Unis ont recruté en janvier 60 éléments de groupes terroristes affiliés à Daesh et Al-Qaïda pour mener des attaques terroristes en Russie et dans les États de la Communauté des États indépendants, CEI. Selon ce rapport, le responsable du renseignement russe a prédit que le département d'État américain essayait d'attribuer toutes ses erreurs de calcul et ses crimes aux soi-disant actions de propagande de la Russie et de développer des programmes pour lancer une guerre de l'information avec Moscou. La Syrie a qualifié d'hystérie les allégations de la ministre française des Affaires étrangères dans lesquelles elle soutenait le procès du président Bachar al-Assad. Le ministère syrien des Affaires étrangères a évoqué mardi 23 mai l'amélioration de la position internationale de Damas comme preuve de la désapprobation de l'ambition de la France pour le procès d'Assad. Un journaliste de France 2 a interrogé mardi la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Espérez-vous qu'il sera jugé? Ce à quoi la ministre a répondu oui. Le ministère syrien des Affaires étrangères a réagi à ces allégations dans un communiqué. Nous avons récemment subi l'hystérie et les positions isolées et détachées de la diplomatie française qui a perdu son sens après les décisions historiques prises par le sommet arabe au Royaume d'Arabie Saoudite concernant la Syrie. La diplomatie française arriérée doit revoir ses positions, a ajouté le ministère, accusant également la France de chercher à restaurer l'héritage de l'ère coloniale. En France, les crises au sein des prisons sont nombreuses depuis des années. Prisons surpeuplées, violences, vétustés, mauvais traitements. C'est pourquoi les militants des droits de l'homme emploient souvent le mot « enfer » pour décrire les prisons de la France. Au 1er janvier 2022, le parc pénitentiaire français comptait 187 établissements, 81 maisons d'arrêt, 99 établissements pour peine, 6 établissements pénitentiaires pour mineurs, un établissement public de santé nationale à Val-de-Marne, en région Île-de-France. Dans les prisons, les victimes des violences, parfois meurtrières, sont nombreuses, tant parmi les prisonniers que le personnel carcéral. Pendant les 6 dernières années, les prisonniers ont porté au moins 30 plaintes de violence contre le personnel carcéral. Les visites officielles réalisées en 2022 ont permis de voir un taux d'occupation inférieur à 135%. Les inspecteurs judiciaires disent que 3 établissements affichaient au moment de la visite des taux supérieurs à 200%. Ce fléau touche particulièrement les maisons d'arrêt, destinées à recevoir les détenus condamnés aux peines les plus courtes. Elle est prévue en attente de jugement avec un taux d'occupation moyen de 141% en janvier 2023. Le constat n'est pas nouveau. Le nombre de détenus incarcérés a toujours été supérieur au nombre de places disponibles sur la période 1990-2023, à l'exception de l'année 2001. Mais le phénomène s'intensifie. Au moins 50 prisons ont été condamnées par la Haute Cour administrative. La France a été également condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour les problèmes liés à la surpopulation de ces établissements pénitentiaires. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à agir maintenant pour éviter que la crise ne se transforme en catastrophe dans la Corne de l'Afrique. Lors d'une conférence de bailleurs de fonds visant à collecter 7 milliards de dollars pour la région qui s'est tenue mercredi au siège de l'ONU à New York. Le programme alimentaire mondial, PAM, des Nations Unies, avertit que des millions de personnes dans la Corne de l'Afrique sont prises au piège de la faim, soulignant que la plus longue sécheresse jamais enregistrée a cédé la place à des pluies et à des inondations soudaines. Selon l'agence onusienne, les prix des denrées alimentaires et de l'énergie restent obstinément élevés et l'impact du conflit au Soudan se répercute dans toute la région. Les mauvaises récoltes successives et les coûts de transport élevés ont notamment fait grimper les prix des denrées alimentaires bien au-delà de ce que peuvent se permettre des millions de personnes dans la région. L'année dernière, les donateurs ont apporté une aide vitale à 20 millions de personnes et ont contribué à éviter une famine. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Iran, Indonésie, Téhéran défie les sanctions américaines. Les développements successifs observés dans la région du Moyen-Orient confirment sans équivoque l'agonie de l'ordre mondial unipolaire des États-Unis avec l'émergence de nouvelles puissances. Cela étant, on pourrait en déduire que les menaces des États-Unis et de leurs complices, le régime sioniste, contre l'axe de la résistance, en particulier contre l'Iran, ne sont rien d'autre que des paroles et des coups de bluff destinés à redorer leur image et à détourner l'attention de l'opinion publique de leur crise interne. Parmi les événements qui pourraient bien indiquer le déclin de l'hégémonie américaine, on peut citer le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe, l'unité plus marquée que jamais des pays arabes, et surtout la reprise des relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Il va sans dire que deux événements importants, savoir le périple de la 86e flottille de la marine iranienne à travers le monde et la récente visite du président iranien en Indonésie, en plus de montrer le rôle central de l'Iran dans la neutralisation des sanctions américaines, marquent la fin de l'hégémonie américaine dans la région et une ère post-américaine qui vient de commencer dans la région du Golfe Persique. Sans aucun doute, l'événement marquant de ces derniers temps, à savoir la visite du président iranien en Indonésie et l'accueil officiel et populaire qu'il a reçu, démontre l'échec retentissant de la politique américaine visant à isoler l'Iran. À la tête d'une délégation politico-économique de haut rang, le président iranien Ebrahim Raisi s'est rendu en Indonésie mardi 23 mai. La visite d'État du président iranien à Jakarta marque un tournant dans les relations bilatérales qui ouvrira un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays. Au cours de la visite, un certain nombre de protocoles d'accord ont été signés entre les deux pays dans les domaines de l'énergie, de la médecine, de la science et de la technologie.
Bonjour à tous, bienvenue dans la capitale iranienne, Téhéran. Notre programme étant le débat, nous allons commencer, comme le veut la tradition, donc par un reportage qui fera le point, le sujet du jour. Donc l'Iran et la Russie, leurs rapports et leurs axes ferroviaires, pratiquement voulant être mis en route, les budgets entre l'Iran et la Russie, les échanges également économiques qui se font en rial et en rouble, c'est le sujet du jour. Je vous propose donc tout d'abord le reportage, par la suite la venue de nos invités. Aujourd'hui, nos invités sont Morgane Lotz, iranologue, et Xavier Dupré, l'économiste. Tout de suite donc, je vous propose le reportage.
L'Iran et la Russie, les deux alliés de tous les instants, ont franchi cette semaine un pas de géant pour approfondir leurs relations et contourner les sanctions draconiennes en signant un accord ferroviaire ambitieux. Les deux parties ont signé mercredi 17 mai un accord pour achever le dernier tronçon du corridor international de transport Nord-Sud (INSTC), un réseau de routes maritimes, ferroviaires et routières s'étendant sur plus de 7000 km reliant l'Europe du Nord à l'Asie du Sud. Dans le cadre de l'accord gagnant-gagnant, la Russie allouera 1,3 milliard d'euros de prêts interétatiques pour aider à financer la construction d'un chemin de fer de 162 km entre la ville de Rasht, dans le nord de l'Iran, et Astara, à côté de la frontière du pays avec l'Azerbaïdjan. Les travaux sur le projet devraient se terminer d'ici 2027. La Russie fonde de grands espoirs sur ce projet. Le vice-premier ministre Alexandre Novak le présentant comme un changement global des chaînes d'approvisionnement qui, selon lui, pourrait devenir une alternative au canal de Suez. Le président iranien Ebrahim Raisi et son homologue russe Vladimir Poutine ont tous deux assisté à la cérémonie de signature virtuellement via une liaison vidéo et ont salué l'amitié grandissante entre les deux pays. Raisi a décrit le projet comme une étape stratégique importante vers une coopération plus étroite entre l'Iran et la Russie qui, a-t-il souligné, profitera à toutes les nations impliquées dans l'INSTC. La République islamique d'Iran a un grand potentiel malgré les efforts du collectif occidental pour contourner les territoires iraniens et utiliser d'autres voies de transit, a-t-il déclaré. La route à travers l'Iran est la route la moins chère, la plus économique et la plus proche pour le trafic commercial et de transit dans la région. Poutine, pour sa part, a déclaré que le projet est une entreprise majeure pour la région, l'infrastructure de transport mondial et que le corridor contribuera à diversifier le trafic mondial en plus d'autres avantages économiques sous forme d'emplois et d'investissements. Le trafic via le nouveau corridor possédera des avantages compétitifs substantiels. Par exemple, il faudra environ 10 jours pour livrer des envois de Saint-Pétersbourg à Mumbai. Je tiens à souligner, à titre de comparaison, qu'il faut 30 à 45 jours pour les livrer par les voies commerciales traditionnelles. En effet, cela permet de réduire considérablement les délais et les coûts de livraison, a-t-il déclaré. Le président russe a en outre déclaré que le projet contribuait à la sécurité alimentaire mondiale car il facilitait la livraison de nourriture et d'autres produits agricoles en Asie de l'Ouest ainsi qu'en Afrique.
Nous revoilà donc sur les plateaux. Donc d'abord la venue donc de nos invités. Mais, alors j'invite à monsieur Xavier Dupré. Bonjour monsieur Dupré.
Merci, c'est un plaisir pour moi également.
Alors, je ne pense pas que notre deuxième invité est encore arrivé. Monsieur Xavier Dupré, la situation économique de l'Iran se veut meilleure dans l'avenir, notamment du fait que le côté isolé du pays iranien à cause des sanctions va prendre fin d'ici quelques années si de tels accords comme l'accord ferroviaire se met en place. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision optimiste de la situation en Eurasie ?
Mais c'est-à-dire qu'en fait, oui, des choses sont en train de bouger dans cette zone. La guerre en Ukraine aujourd'hui a mis l'Europe occidentale devant, une fois de plus, sa dépendance coupable à l'égard de Washington, et donc nous nous sommes coupés de la Russie. Ce faisant, cette dernière cherche, et c'est tout naturel et très légitime finalement, à diversifier ses voies d'ouverture sur l'économie mondiale. Évidemment, ça ne passera plus par une connexion avec l'Europe occidentale, mais avec des pays qui se situent en Asie, donc principalement il y a au sud l'Iran et puis il y a la Chine. Ces deux pays, tant Pékin que Téhéran, deviendront les deux grands partenaires à l'avenir de la Russie, parce que le conflit en Ukraine n'est hélas pas prêt de se terminer. Donc je dis ça pour les populations civiles. Donc oui, effectivement, dans ces conditions, on va assister à une accélération de la mise en place d'un ordre du monde multipolaire. Et donc, toute la centralisation du commerce international autour du canal de Suez, parce que c'est de ça dont il est question, le canal de Suez qui est une création coloniale occidentale en Égypte, je veux dire, faut jamais, enfin voilà, ce sont ses origines historiques, eh bien ce canal de Suez va être quelque part un peu mis sur la touche pour d'autres types de liaisons qui ne seront plus basées sur la mer, mais qui seront beaucoup plus telluriques, qui seront liées à la Terre, qui seront liées à des systèmes, à l'interconnexion de systèmes ferroviaires. Et donc, oui, là, à ce moment-là, l'Iran est forcément désenclavé, puisqu'il va se situer très exactement au milieu des nouvelles routes commerciales entre la Russie et la Chine, d'autre part, et la Russie et la Chine, d'une part, et l'Inde, d'autre part. Donc forcément, ça ne peut que contribuer à désenclaver le pays. D'autre part, je voulais simplement faire observer que cet accord, enfin, ce rapprochement entre l'Iran et la Russie, intervient au moment où le FMI, donc pas une officine tiers-mondiste, pas un organe subversif, le FMI met en garde Washington contre le danger que représente pour l'utilisation sur les marchés financiers et commerciaux du dollar de la politique de sanctions des États-Unis, qui est une politique complètement unilatérale et systématique depuis la fin des années 1980. Ce qui signifie aussi qu'ici, nous sommes confrontés à une double émancipation, si je puis dire, une émancipation, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'ordre technique, commercial, ferroviaire, etc., mais aussi un désenclavement monétaire, puisque en contournant le dollar, l'Iran et la Russie mettent en avant un commerce qui sera basé sur l'échange bilatéral de leurs devises respectives, de leurs devises nationales respectives, ce qui permet d'éviter cette fois-ci tout risque de sanction de la part des États-Unis, puisque le dollar n'est plus du tout impliqué dans les échanges commerciaux, ne sera plus impliqué dans les échanges commerciaux entre Téhéran, entre votre pays et la Russie.
Excusez-moi de vous interrompre parce que je profite de ce que vous dites. Il y a également aussi, vous parliez donc de la dédollarisation, mais il y a également un manque de confiance au niveau des banques. Les sanctions américaines ont provoqué la crainte des banques. Également un échange plutôt de matériel plutôt qu'un échange bancaire aussi. Il y a eu cette création et donc cet échange de frais, cet accord ferroviaire va permettre également le fait de moins passer par des banques internationales et passer par des banques plutôt nationales, ou voire même tout simplement un simple échange de marchandises, un simple échange de frais. C'est peut-être aussi ça qui fait peur au FMI du fait que ça mette en danger la sécurité même des banques et peut-être même la raison même des banques.
C'est-à-dire qu'en fait, ce qui pose problème, surtout aux banques occidentales en ce moment, qui sont, comme vous l'avez souligné, les grandes banques américaines et européennes, sont des multinationales de la finance. Je pense que ce qui leur pose surtout problème aujourd'hui, c'est la remontée des taux qui est tout à fait spectaculaire aux États-Unis. On n'avait plus vu ça depuis 1987, donc ça fait près de 40 ans. Donc forcément, un certain nombre de petits établissements sont en péril, mais ces petits établissements, la crise se concentre surtout sur ces petits établissements, spécialement les banques régionales aux États-Unis. Mais le rachat de ces actifs bancaires par de plus grandes banques va les rendre plus fortes encore. Je pense que ce qui fait fondamentalement peur au FMI aujourd'hui, c'est que dans une partie du monde qui est en forte croissance économique, avec une vraie production industrielle, l'Occident est aujourd'hui très désindustrialisé, et bien dans cette partie du monde où on crée de la valeur, où on l'échange, on ne passe plus par le dollar, ce qui fait perdre évidemment de son rôle central au billet vert. Simplement pour vous donner un exemple, lorsque aujourd'hui, on va peut-être quitter l'Asie parce que c'est un mouvement de dédollarisation qui est quand même très global. Un pays comme l'Argentine, qui est un grand pays producteur de matières premières alimentaires, décide d'axer tout son commerce avec Pékin en yuan. Il sera basé exclusivement en yuan, il est très très clair pour les États-Unis qu'à ce moment-là, une partie de ce qui était autrefois tout à fait lié au dollar, tout à fait à la bourse de Chicago en ce qui concerne les matières premières alimentaires, va être complètement découplée des centres de décision des États-Unis, puisque tout se fera à destination de la Chine avec la devise de la Chine. C'est une vraie perte de pouvoir qui va bien au-delà du fait de savoir si on échange avec telle ou telle banque. C'est vraiment lié en fait aujourd'hui au fait que les Occidentaux n'ont quasiment plus que la finance comme moyen d'accumulation de capital.
Il y a aussi un autre point qui est intéressant avec cet accord ferroviaire, c'est également les vérifications. Parce que si au niveau des frais maritimes et au niveau de l'aviation, on doit vérifier les marchandises, pour les trains, ça se fait de manière beaucoup plus difficile. Il n'y a pas exactement de passeport, d'ID pour vérifier ce qu'il y a dans les marchandises et les suivre comme il se fait actuellement par radar. Donc c'est aussi un avantage stratégique pour les pays qui veulent se lancer dans cette création de voies ferroviaires. On parle aujourd'hui de l'accord entre l'Iran et la Russie, mais n'est pas loin également le projet de la route de la soie. Tout ça est un avantage direct pour l'Iran parce qu'il se trouve dans une zone stratégique extrêmement importante pour donner l'accès, que ce soit à l'Eurasie, mais que ce soit également à l'Afrique. Est-ce qu'il n'y a pas également cet avantage stratégique, et c'est pour ça que la Chine et la Russie, deux pays dominants, se mettent en place ces voies ferroviaires aussi rapidement, parce qu'on parle d'un projet qui devrait commencer à être en accès en 2027, donc c'est assez rapide quand même.
Oui, c'est très clair, mais ça c'est évident, c'est-à-dire qu'en fait le fret international aérien est complètement lié à des agences internationales dans lesquelles les États-Unis, qui ont été mises en place durant les années de guerre froide et donc qui ont été mises en place sous l'égide des États-Unis et sous leur direction. Donc effectivement, le commerce maritime est structuré par les Anglo-Saxons depuis le milieu du 19e siècle, c'est l'Angleterre puis les États-Unis. Donc oui, le train représente un domaine dans lequel une voie d'échange dans laquelle les États-Unis et les Occidentaux, par ricochet, ont finalement moins de prise. Donc oui, ça représente une voie d'émancipation en termes de structure ferroviaire. Mais fondamentalement, si vous regardez ce qui se passe du côté du FMI aujourd'hui, leur crainte, elle est d'abord monétaire. Elle est d'abord liée au fait que si les États-Unis ne peuvent plus endetter toute la planète quelque part, faire payer leurs dettes à toute la planète par le rôle central du dollar, eh bien tout simplement, l'économie occidentale est menacé de graves problèmes, de graves séquences d'effondrement qui vont très très au-delà de ce dont on parle aujourd'hui. Vraiment, le rôle central du dollar, c'est une donnée structurelle de l'économie mondiale depuis 1945. Donc ce serait vraiment, si vous voulez, ce serait un changement complet de continuum historique en matière de relations économiques internationales. Ce serait l'équivalent d'une révolution, ce serait une véritable révolution. On est très, très au-delà de ce dont on parle ici, en fait.
Alors l'Iran se félicite de ce genre d'accord. L'un des points principaux pour le gouvernement iranien, c'est de pouvoir revaloriser l'intérêt iranien, c'est-à-dire pour les autres pays. Ces projets internationaux vont également évoluer grâce à ça. Est-ce que on peut comprendre donc le point de vue iranien comme quoi ça va donner un aspect au pays beaucoup plus important, que ce soit dans le domaine régional, mais aussi international?
C'est très clair. Cela, si vous voulez, tout le plan qu'ont eu les États-Unis à l'égard de l'Iran depuis la révolution islamique de 1979, ça a été d'isoler ce pays, de le sanctionner, de le pointer du doigt et quelque part de tenter, sans trop de succès d'ailleurs, de le mettre au banc des nations, y compris d'ailleurs en 1980, en pilotant Saddam Hussein qui a déclaré unilatéralement la guerre à l'Iran. Évidemment que si demain, la Chine, cette grande puissance montante, la Russie, qui restera, qu'on le veuille ou non, un grand centre de production de matières premières dans les années qui viennent, si ces deux grandes puissances finissent par structurer une partie de leur commerce régional mais asiatique, l'Asie est une grande région d'ailleurs en termes de croissance pour les années qui viennent, si la restructuration de leur chaîne de valeur, de leurs liens commerciaux privilégient des voies ferroviaires avec l'Iran, évidemment que la puissance de l'Iran va en sortir terriblement renforcée. Et on peut même dire de ce point de vue-là que ce sera l'échec peut-être définitif, et on voit bien que ça commence à être un échec définitif pour les stratégies, les politiques d'isolement qu'avaient développé les États-Unis. J'en veux simplement pour preuve, c'est qu'aujourd'hui, quand l'Arabie Saoudite décide de facturer une partie de son commerce de pétrole avec la Chine en yuan, ce qui s'ensuit immédiatement, c'est une amélioration de ses relations avec Téhéran. Cela prouve qu'aujourd'hui, dans cette région du monde, le prochain Moyen-Orient, la Chine joue un rôle de plus en plus important, la Russie sera aussi de plus en plus importante, et quelque part, les Occidentaux et les États-Unis, évidemment, seront quelque part un peu mis sur la touche, ou en tout cas, leur puissance ne sera plus aussi unilatérale et déterminante qu'elle ne l'a été dans le passé. Ça, c'est très clair. Et ces travaux, et cet aménagement d'une voie ferroviaire commerciale très conséquente entre la Russie et l'Iran participent de cette réaffirmation de la puissance iranienne et témoignent aussi de l'échec de la stratégie de marginalisation à l'encontre de l'Iran qui est poursuivi par les États-Unis depuis 1979. C'est très, très net.
Alors, plusieurs fois, l'Iran a indiqué qu'ils veulent se mettre en accord avec l'Inde, faire des coopérations. Les BRICS et les autres organisations créées en Asie également ont laissé plus de place à l'Iran. Et derrière, on voit Moscou pousser l'Inde vers l'Iran. On sait que le port Bandar Abbas va avoir un port exclusivement pour les commerces avec l'Inde. Et cette voie ferroviaire également va jusqu'à Mumbai. Est-ce que ça permet en fait à l'Iran également d'accéder à des pays qui étaient fermés à cause des sanctions et qui va permettre, bien entendu, donc un meilleur échange même avec les pays qui n'avaient pas forcément des coopérations économiques avec l'Iran depuis?
Je crois que oui, c'est tout à fait, parce qu'en fait, si vous voulez, ce à quoi on assiste depuis, je dirais, 10-15 ans, c'est la réaffirmation de la souveraineté de grandes nations, de grands pays comme la Chine, la Russie, l'Inde et l'Iran. Il est très très clair que l'Inde actuelle, l'Inde contemporaine, n'est plus aussi alignée qu'elle ne le fut sur les desiderata des États-Unis quant à l'évolution des relations entre nations asiatiques. Ça c'est vrai. L'Inde est devenue aujourd'hui un pays profondément souverainiste et qui est jaloux de son indépendance. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant qu'à l'intérieur des BRICS, des rapprochements soient à signaler entre la Russie et l'Inde d'autre part. De surcroît, ce sont des pays qui ont des relations entre eux depuis déjà fort longtemps. Hein, déjà du temps de l'URSS, il y avait quand même une proximité de Moscou avec New Delhi. Donc ce rapprochement, il est là, il s'inscrit dans cette dynamique-là. Et forcément, dans ces conditions, on peut forcément imaginer que ces lignes ferroviaires d'échange commercial non seulement iront jusqu'au Mumbai, mais permettront un développement des relations commerciales entre l'Iran et l'Inde, de manière d'ailleurs à ce que la production pétrolière et gazière iranienne, qui est l'avenir de ce pays puisse s'écouler, trouver un client final important en Inde. Vous savez, aujourd'hui, en Europe occidentale, en Amérique du Nord, les médias dominants, les courants de l'idéologie hégémonique ne pointent plus exclusivement les vilains communistes chinois ou les vilains iraniens chiites. Aujourd'hui, on pointe du doigt toute une série de pays qui sont même parfois membres de l'OTAN, qui sont historiquement proches de certains grands centres de décision occidentaux. On pointe du doigt M. Erdogan en Turquie, on pointe du doigt M. Modi en Inde. En fait, on pointe du doigt tous les gouvernements du Sud global qui disposent aujourd'hui de la capacité à affirmer leur souveraineté nationale. Donc, nous sommes quelque part aujourd'hui, nous autres occidentaux, mis devant le fait accompli. Donc, je crois que ça va continuer de la sorte et il y aura effectivement une affirmation plus grande de sa souveraineté par l'Inde, ce qui passera par le fait de ne pas vouloir appliquer des sanctions unilatérales et aveugles telles que décidées à Washington dans le commerce de New Delhi avec Téhéran. Ça me semble très net. C'est le mouvement actuel de l'histoire.
Merci, Monsieur Després. J'ai encore une dernière question. Ce sera certainement la dernière question de notre débat. C'est concernant donc les banques. On sait que l'Iran et la deuxième banque de Russie vont essayer de trouver un langage électronique pour pouvoir faire un deuxième système SWIFT. Est-ce que vous pensez que d'autres pays, une fois que ce système serait mis en place, il est annoncé pour être effectif d'ici 2023-2024, au pire, est-ce que vous pensez que d'autres pays, dans ce cas-là, pourraient vouloir se lancer et se rajouter à ce système que les Russes et les Iraniens sont en train de construire?
C'est-à-dire qu'en fait, les plateformes d'échange électronique alternatives à SWIFT, vous savez, ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, il y a cette banalisation des technologies occidentales. Lorsqu'on lance SWIFT dans les années 70 hein, du siècle dernier, effectivement, à ce moment-là, l'Europe occidentale, les États-Unis, en matière de système de codage électronique, disposent d'un monopole mondial, donc tout le monde dépend de SWIFT. Aujourd'hui, il y a eu un développement de la connaissance, de l'ingénierie, de l'électronique dans le sud global qui permet à des systèmes tout à fait alternatifs de fonctionner complètement. Si aujourd'hui, par exemple, le yuan est devenu la première monnaie, la première devise d'échange entre la Russie et la Chine, c'est tout simplement parce que les deux systèmes, le système russe et le système SIPS en Chine, ont tout simplement pu s'interconnecter et sont tout à fait fonctionnels dans leurs échanges bilatéraux sans appliquer le dollar, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune possibilité de sanction, aucune possibilité légale de sanction. Donc dans ces conditions, on pourrait très très bien imaginer demain qu'un tel système puisse, une telle interconnexion de systèmes nationaux alternatifs puisse voir le jour entre la Russie et l'Iran d'autre part, ou alors entre la Russie, la Chine d'une part et l'Iran d'autre part, et puis d'autres pays pourraient commencer à vouloir commercer dans leur devise via ce système. À terme, ce que je pense, c'est que tous ces systèmes alternatifs au système SWIFT, vous savez, il existait des systèmes électroniques de paiement déjà en Europe avant le système SWIFT. On s'est simplement tous ici, petits pays occidentaux, par rapport aux États-Unis, alignés sur leur système. Je pense qu'à terme, il y aura deux systèmes qui vont dominer, qui vont rester dominants dans le monde. Le SWIFT d'un côté, lié aux États-Unis et à la finance anglo-saxonne, et d'un autre côté, tous ces systèmes qui sont en train de se développer, ces systèmes alternatifs, vont finir par s'agréger, s'organiser pour se regrouper dans des modalités qui restent à définir autour du système SIPS en Chine. Mais donc, on assiste effectivement, là aussi, à une forme d'émancipation du côté de l'électronique et des systèmes d'échange électronique entre banques, ce qui est tout simplement lié aussi au fait que les connaissances scientifiques en matière d'électronique et de codage des systèmes informatiques bancaires, eh bien, tout simplement, ces connaissances-là se sont diffusées très largement dans le monde depuis une trentaine d'années.
Merci Monsieur Després. Donc je rappelle Monsieur Després, économiste basé à Bruxelles. Je vous remercie de votre participation. Malheureusement, nous n'avons pas pu joindre notre deuxième invité, Monsieur Morgan Loss, qui était notre expert iranologue du jour. C'est dommage. Ça sera pour une prochaine fois, très certainement. En tout cas, vous, téléspectateurs, je vous remercie. Je vous remercie de nous suivre. N'hésitez pas à voir ou à revoir notre débat si vous l'avez manqué sur notre site ou alors nos réseaux sociaux. N'hésitez pas également à laisser un commentaire ou poser vos questions sur notre plateforme. Moi, je vous dis au revoir, à une prochaine fois pour un autre sujet du débat, ici dans la capitale iranienne, Téhéran. Au revoir.
La voix de la lumière.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Louange au prophète de la paix et de la clémence, le vénéré Muhammad, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, nous vous présentons la lecture, la traduction et l'exégèse des 5 derniers versets du chapitre 43 du Noble Coran, les versets 85 à 89 de la Sainte Sourate Al-Zukhruf, l'ornement. Avec la lecture de ces 5 versets, nous arriverons en fait à la fin de la Sourate 43 du Noble Coran. À partir de notre prochain programme, nous vous présenterons la lecture et l'exégèse du verset 44 du Noble Coran, la Sainte Sourate Ad-Dukhan, la fumée. Restez avec nous jusqu'à la fin de la Voix de la Lumière d'aujourd'hui. Dans notre dernier programme, nous avons lu ensemble des versets de la Sainte Sourate 43 qui nous ont appris que le Coran souligne que les mécréants rejetaient l'appel divin et qu'ils se réunissaient pour comploter contre Dieu et les croyants. Ils s'imaginaient qu'ils seraient capables de vaincre la vérité et de s'opposer à la volonté du Seigneur. Or, le Coran souligne que Dieu connaissait toutes leurs conspirations secrètes. Dieu le Très-Haut dit à son noble messager, le vénéré Muhammad, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, de s'opposer à ceux qui prétendaient que Dieu aurait des enfants, en disant que s'il en avait était le cas, il aurait été le premier à l'adorer. Le Coran souligne dans de nombreux versets que Dieu n'a pas besoin d'enfants, et ce d'autant plus que le fait d'avoir des enfants est une limitation dans le temps et dans l'espace. Dieu le Très-Haut dit à son noble messager de laisser les égarés se perdre dans leurs fausses idées jusqu'à la fin du temps. En réalité, le Coran souligne que la mission des messagers se limitait à la guidance et que le choix appartenait finalement à chaque individu de répondre ou non à l'appel du Seigneur. C'est ainsi que chaque individu devient responsable lui-même de ses pensées et de ses actes devant le Créateur. Ceux qui resteront dans leur égarement en verront donc le résultat au jour du jugement dernier. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, écoutons d'abord le verset 85 de la Sainte Sourate Al-Zukhruf, l'ornement. Puis nous vous en donnerons la traduction.
وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون.
Et béni soit celui à qui appartient la souveraineté des cieux et de la terre et de ce qui est entre eux. Il détient la science de l'heure, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Nous devons adorer le Seigneur des deux mondes, car c'est à lui qu'appartient la souveraineté des cieux et de la terre. C'est Dieu le Très-Haut qui détient la vérité sur la résurrection, et c'est lui qui gère les lois qui dominent l'univers tout entier. Après la mort, les êtres humains retourneront vers leur Créateur qui les jugera pour tout ce qu'ils ont accompli pendant leur existence terrestre. Celui qui souhaiterait le salut éternel dans l'au-delà devra donc se soumettre à la volonté du Seigneur et suivre le chemin qu'il lui a tracé vers la lumière de la vérité. Ce verset nous apprend que le début et la fin de l'existence, ce bas monde et l'au-delà, appartiennent tous à Dieu. C'est uniquement Dieu le Très-Haut qui connaît les secrets de la fin du temps et de la résurrection. C'est lui qui connaît seul quand la résurrection arrivera. Voici maintenant le verset 86 de la Sainte Sourate Al-Zukhruf, l'ornement.
ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.
Et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui n'ont aucun pouvoir d'intercession, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. Au jour du jugement dernier, chacun sera jugé par le Seigneur d'après ce qu'il a accompli et ses croyances, sans qu'il y ait aucune intercession pour ceux qui ont invoqué une fausse divinité en dehors de Dieu. Il y aura des intercessions acceptées uniquement pour ceux qui ont eu foi et qui se sont soumis à la volonté de Dieu. Ce verset nous apprend que le repentir est une voie de se tourner vers Dieu, le Très-Haut. De même, l'intercession dans l'au-delà est possible pour ceux qui ont la foi en Dieu et qui se soumettent à la volonté du Seigneur. Les croyants doivent s'entraider pour trouver le chemin de la vérité et renforcer leur croyance religieuse. Voici maintenant le verset 87 de la Sainte Sourate Al-Zukhruf, l'ornement. Et si tu leur demandes qui les a créés, ils diront très certainement Dieu. Comment se fait-il donc qu'ils se détournent? Au jour du jugement dernier, quand on demandera aux égarés « Qui est-ce qui vous a créé ?», ils répondront « Dieu ». Ils connaissent donc la vérité au fond de leur cœur par leur nature innée. Pourquoi se sont-ils donc détournés de Dieu et ont pris le chemin de l'égarement? D'où vient donc cette dérive qui n'a pourtant aucune place dans la nature humaine? Ce verset nous apprend que même les mécréants et les associationnistes savent dans le fond de leur cœur que Dieu le Très-Haut est le Créateur unique de l'univers. Toute dérive par rapport à la croyance en l'unicité du Seigneur est une dérive de la nature innée de l'être humain. Écoutons enfin les versets 88 et 89 de la sourate 43 du noble Coran. La parole du prophète à Dieu quand il dit « Seigneur, ce sont là des gens qui ne croient pas. Eh bien, éloigne-toi d'eux, pardonne-leur et dis salut, car ils sauront bientôt. Dans les deux derniers versets de la sourate 43, le Coran relate la parole du prophète au Seigneur quand il dit que ces gens-là ne croient pas à Dieu. Dieu le Très-Haut répond à son messager « Éloigne-toi d'eux et pardonne-leur. Ils comprendront eux-mêmes un jour la vérité. » En effet, le Seigneur dit que ces gens-là s'obstinent dans leur égarement et qu'ils n'accepteront jamais l'appel. C'est pourquoi le messager de Dieu devrait se tourner d'eux et les laisser dans leur perdition. Ces versets nous apprennent que les messagers et les leaders religieux ne doivent pas s'attendre à ce que tous les gens croient en la vérité divine. Face à ces égarés, il faut parfois les abandonner dans leur perdition et s'éloigner d'eux, car ils ne veulent pas entendre l'appel à la vérité. Chers auditeurs, ici s'achève la voix de la lumière d'aujourd'hui. Nous avons terminé dans ce programme la lecture et l'exégèse du chapitre 43 du Noble Coran, la Sainte Sourate Al-Zukhruf, l'ornement. À partir du prochain programme, nous commencerons la lecture du chapitre 44 du Livre Saint, la Sainte Sourate Ad-Dukhan, la fumée. D'ici là, nous vous confions toutes et tous à la garde de Dieu.